Vous écoutez France Culture. Le sens des choses.
Stéphanie Bonvicini.
Jacques Attali. Bonjour.
Bonjour.
Comme chaque dimanche avec Jacques Attali, nous sommes très heureux de vous retrouver pour parler du sens des choses et réfléchir plus particulièrement à ce que sera notre avenir à l'horizon 2050. Alors aujourd'hui, Jacques, nous avons choisi de parler de l'avenir de la démocratie.
Oui, parce qu'il y a des choses qu'on croit acquises, définitivement installées dans nos vies, dans la vie de nos enfants et nos petits-enfants, comme la démocratie. Or, elle n'est pas du tout acquise. On peut très bien imaginer que même dans les pays les plus stables, un jour revienne le temps de la dictature, de l'occupation, de l'obscurantisme. Mais aussi, on peut imaginer que le marché ayant globalement pris le pouvoir sur l'État, que l'ensemble des instruments dont dispose la puissance publique ayant disparu, que les décisions à prendre devenant de plus en plus complexes, que les citoyens se demandant de plus en plus pourquoi on leur pose la question de leur demander leur avis sur tel ou tel sujet, on peut penser qu'un jour viendra où la démocratie aura perdu toute utilité, à moins de lui redonner du sens.
Pour en débattre, nous recevons aujourd'hui le philosophe Bernard Stiegler, docteur de l'École des hautes études en sciences sociales. Il est actuellement directeur du département du développement culturel au Centre Georges Pompidou, où il dirige également l'Institut de recherche et d'innovation, l'IRI, créé à son initiative en avril 2006. Bernard Stiegler a été directeur de recherche au Collège international de philosophie, puis il a dirigé l'INA et ensuite l'IRCAM, l'Institut de recherche et coordination acoustique-musique. Bernard Stiegler a publié dernièrement un essai en collaboration avec Marc Crépon intitulé « De la démocratie participative, fondements et limites chez Mille et une nuits ». Il est également l'auteur d'un ouvrage « La télécratie contre la démocratie ». Bernard Stiegler, bonjour.
Bonjour.
Alors avant de parler de l'avenir, j'ai envie de vous demander, est-ce qu'en France, la démocratie est acquise ?
Pas du tout. Et c'est même une question de savoir si elle existe. Vous savez bien que vous évoquiez dans l'introduction ce livre de la démocratie participative, fondements et limites, écrit avec Marc Crépon, qui est en fait une deux conférences que nous avons faites à l'association Ars Industrialis, dont je suis par ailleurs président. Et nous avons souligné, en particulier dans ce livre, que c'est un peu bizarre de parler de démocratie participative, parce que la démocratie est participative, ou ça n'est pas une démocratie. On sait bien que c'est Ségolène Royal qui a lancé cette problématique pendant la campagne électorale. Or, lancer cette thématique sans interroger le caractère, que je dirais, pléonastique de la démocratie participative, nous a semblé étrange. Et en réalité, il nous semble que cette problématique de la démocratie participative signifie refonder la démocratie, reconstituer une démocratie à un moment donné où il n'y a peut-être plus de démocratie et où menace énormément l'oligarchie qui est en train de chercher à se substituer à la démocratie, quitte à produire des ersatz de démocratie, dont d'ailleurs la démocratie participative pratiquée par Ségolène Royal m'apparaît être un cas parmi d'autres. Bon. Voilà, donc nous ne pensons pas du tout, Ars Industrialis et moi en particulier, que la démocratie soit une chose acquise. De toute façon, la démocratie est par nature menacée. Je dirais que c'est aussi sa force d'être exposée à cette menace, parce que c'est comme ça qu'elle se renouvelle en permanence. Mais elle doit être sans cesse défendue, protégée, entretenue. Et elle doit être entretenue en particulier par une pratique des instruments de la démocratie, de ce que j'appelle l'organologie politique. J'emploie un mot comme ça, tout à coup un peu étrange. L'organologie, ça vient de la musique. Vous avez signalé que j'étais directeur de l'IRCAM. Bon, si je suis venu à l'IRCAM, c'est parce que je m'intéresse à la musique. Mais dans la musique, outre le plaisir que j'y trouve, ce que je viens chercher, c'est une pensée technique de l'art du temps qu'est la musique. Or, il se trouve que la pensée est aussi un art du temps, et que je pense qu'il y a également des technologies de la pensée, ce que j'appelle des no-techniques, technologies de l'esprit. Ces technologies de la pensée sont aussi les technologies de la politique. L'écriture est la condition de la démocratie. Je parle de l'écriture alphabétique. La démocratie apparaît en Grèce ancienne. Il faut d'ailleurs faire très attention de ne pas produire un grand récit de la démocratie en parlant de la démocratie grecque et de la démocratie industrielle et de la démocratie contemporaine comme si c'était la même chose, parce qu'il y a des âges de la démocratie, d'une part, et d'autre part, politique ne veut pas dire nécessairement démocratie. Je l'ai dit, moi, dans ce livre et dans la conférence dont il est extrait, je ne m'interdis pas d'envisager une fin de la démocratie et une poursuite de la politique par notre organisation que la démocratie. Je m'autorise à le penser, je ne le souhaite pas du tout. Je me bats aujourd'hui pour sauver la démocratie que je crois extrêmement menacée. Et je crois qu'elle est très menacée, en particulier, par une mnémotechnologie qui n'est plus l'écriture, parce que l'écriture a régressé aujourd'hui dans le statut organologique qui permet l'organisation des sociétés. J'insiste d'ailleurs sur ce fait que organologie contient organe et organisation suppose organe aussi, c'est-à-dire que penser une organisation sociale, c'est penser, dans mon esprit, organologiquement, les conditions techniques des relations entre les individus et entre les groupes. Ces conditions techniques sont liées à des mnémotechniques, ou à ce que Rifkin appelle aussi des technologies relationnelles, Jeremy Rifkin, le penseur américain. Et ces mnémotechniques sont devenues, depuis le 19e siècle et surtout le 20e siècle, des mnémotechnologies. Je parle des technologies de communication, des technologies d'information, que j'appelle plus volontiers des technologies cognitives et technologies culturelles, qui sont aujourd'hui au service quasiment exclusif des grandes industries culturelles, des grandes industries de programmes, de ce qu'on appelle aussi les industries de services, et qui, malheureusement, développent ces mnémotechniques, non pas du tout, ou ces mnémotechnologies, non pas du tout dans le sens d'une intensification de l'intelligence et de la vie sociale, mais plutôt d'un contrôle et d'une destruction de cette intelligence et de cette vie sociale. Ça a pour conséquence ce que M. Lelay a un jour, comme ça, lancé un peu imprudemment. Nous sommes là pour vendre du temps de cerveau disponible. J'ai beaucoup commenté personnellement. J'avais écrit moi-même, en 2000, sortant de l'INA, que TF1, à l'époque, vendait le temps de conscience 20 centimes de l'heure, 20 centimes de francs. L'euro n'était pas encore en vigueur. Et il se trouve que Patrick Lelay a ensuite fait cette déclaration, qui est une mise en évidence de ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la conscience est devenue un marché, et en fait, elle est devenue donc du temps de cerveau sans conscience. Car une conscience ne peut pas être à vendre. Une conscience est inaliénable, sinon ça n'est plus une conscience. C'est le problème de la majorité et de la minorité dont parlait Emmanuel Kant dans un texte fameux qui s'appelle « Qu'est-ce que les Lumières ?». Nous vivons aujourd'hui un paradoxe. Nous avons une technologie de l'esprit incroyablement puissante. Quand vous pensez que tout ce que Internet rend possible, bon, à commencer par ce que permettent Google et Wikipédia. Tous les intellectuels français, pas tous, mais beaucoup crachent dessus. Je pense qu'ils sont totalement irresponsables. Ce sont des instruments intellectuels fabuleux. Moi, je les utilise tout le temps. Je ne m'en cache pas du tout, j'en ai pas honte. Mais en même temps, nous voyons bien comment ces technologies sont mises au service aujourd'hui. Je ne parle pas simplement de Google et Wikipédia, mais de l'ensemble organologique à l'intérieur. Ce qu'on appelle les technologies numériques, à l'intérieur desquelles tout ça se développe, c'est mis au service de ce qu'on appelle le user profiling, c'est-à-dire le profilage des utilisateurs, le contrôle, la standardisation, bref, la diminution de la conscience et l'augmentation de la disponibilité du cerveau. Le cerveau, nous partageons le cerveau avec la limace. Une limace, c'est un cerveau aussi. Il n'y a pas beaucoup de neurones dans un cerveau de limace, une cinquantaine ou une centaine. Nous en avons des milliards. Mais il y a quand même un cerveau. Je veux dire par là que tout être vivant animal est doté d'un système nerveux. Ce qui fait que nous sommes des êtres humains, ce n'est pas que nous avons un système nerveux, c'est que nous avons une conscience. Or, la conscience peut s'élever avec les technologies de l'esprit ou au contraire se contrôler. Je crois que nous sommes aujourd'hui dans une situation comparable à celle qui sépare les grands empires orientaux de la démocratie grecque. L'écriture en Mésopotamie, en Égypte, on pourrait dire aussi en Chine impériale, est une technologie de contrôle des esclaves, des flux de marchandises, de la monnaie, etc. Bon, de production de la monnaie également. Et ne sert pas du tout à élever le niveau collectif, mais à asservir les corps en soumettant ces corps innombrables, les corps d'esclaves en l'occurrence, aux esprits très élevés d'ailleurs, de ce qu'on appelle à cette époque-là le pharaon, le prêtre-roi, les scribes, donc un pouvoir intellectuel extrêmement concentré. Et puis avec la Grèce ancienne, il y a une révolution qui se produit. Cette révolution n'est pas une révolution comme la révolution française, celle des sans-culottes, ça n'est pas une révolution comme la révolution anglaise de Cromwell, c'est la révolution d'une technique, c'est-à-dire la dissémination subitement de l'écriture dans toute la société, avec une transformation de cette écriture. Eh bien, ce que nous vivons en ce moment est comparable à cela, c'est-à-dire que avec la numérisation qui est en train de se produire, nous vivons une révolution très importante, où le modèle qui vient de la télévision et qui a imposé à la vie symbolique, à l'échange, le partage producteur-consommateur, qui permettait dans le monde industriel les économies d'échelle, et qui vient de l'industrie lourde du 19e siècle, ce modèle est en train d'exploser sur Internet, parce que sur Internet, il n'y a pas des producteurs d'un côté, des consommateurs de l'autre, il y a des contributeurs. Tout le monde contribue, plus ou moins. Mais le modèle industriel du 19e et du 20e ne fonctionne plus. Là, il y a une chance formidable d'inventer une nouvelle organologie politique et donc une nouvelle démocratie, de relancer le combat démocratique. Mais il y a aussi le danger d'utiliser ces technologies pour optimiser encore plus les technologies de contrôle. Donc nous sommes dans une situation d'alternative et donc de lutte.
Jacques Attali.
Est-ce que la démocratie au sens traditionnel, telle qu'aujourd'hui celle s'installe, à savoir la démocratie représentative, donnant le pouvoir à une majorité pendant un certain temps, vous paraît véritablement avoir un poids sur le réel? Ou est-ce qu'elle n'est qu'une une apparence dans un univers qui est emporté par les règles de la globalisation et où qui que ce soit qui soit au pouvoir ne soit obligé que de faire ce que le marché décide? D'une part, et d'autre part, avant d'en venir aux nouveaux médias qui, en effet, ont cette double face d'être à la fois des instruments de surveillance et de contrôle, mais aussi des instruments de participation réelle et de libération, restons un instant aux technologies anciennes, c'est-à-dire à la télévision. Et pourquoi, à votre avis, pourquoi êtes-vous si violent quand vous dites que la télévision est aujourd'hui, a été, et encore plus, en particulier sur les enfants, une machine à détruire la conscience ?
Peut-être commencer par là. Le 19e siècle est le siècle d'une très grande révolution industrielle qui est accompagnée par un discours sur l'éducation qui commence avant même la révolution industrielle, avant même la révolution française avec Condorcet, qui se développe avec Guizot, par une politique. On a tendance à oublier Guizot à tort parce qu'il a joué un rôle très important, qui poursuit d'ailleurs au niveau d'une politique d'État quelque chose que dès Luther et Ignace de Loyola, l'Église portait déjà, c'est-à-dire le souci d'éduquer collectivement.
Dès Gutenberg, en fait. Dès l'imprimeur.
Dès Gutenberg, absolument. Absolument. Et ce processus, au XIXe siècle, avec Jules Ferry, c'est évidemment très connu, devient une des premières charges de l'État. L'État a en charge la protection de la nation avec une armée, une politique militaire, etc. La sécurité civile, donc la police, le ministère de l'Intérieur, et l'éducation. Et pas seulement cela, mais notamment l'éducation. Et l'éducation devient une part très très importante du budget national. C'est un investissement sur l'avenir que tout à coup l'État fait. Pourquoi ? Pour faire en sorte que tous les petits paysans de l'époque, car à l'époque n'oublions pas que les petits Français sont presque tous des petits paysans, que tous ces petits paysans, tout à coup, accèdent à ce que chez les Romains on appelait l'osium et ce que les Grecs appelaient la skolé, d'où vient le mot skoléion qui donne le mot école, c'est-à-dire la contemplation des idéalités. Des idéalités, autrement dit, de ce qui n'existe pas dans le monde matériel, mais qui permettent de penser le monde matériel et surtout de le transformer. À partir de là, l'État républicain pose en principe qu'il faut former l'attention collective en lui faisant intérioriser des mnémotechniques et essayer, dans un monde qui ne cesse de se transformer, parce que le monde industriel change sans cesse, de faire en sorte que tous portent leur responsabilité de ce changement, l'intègrent, l'adoptent et y contribuent démocratiquement. C'est ce qu'on appelle la démocratie industrielle.